Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Toulouse, j'aborde ici le chapitre des transports. Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe. Il pourra transporter de 200 à 350 passagers.
C'était il y a 50 ans, le 28 octobre 1972, à Toulouse-Blagnac, le premier vol d'un A300. À 10h39, pour la première fois, un Airbus s'envole et fend les airs. Le début d'une folle aventure mêlée de joie, mais aussi de défis, comme celui du Covid qui a malmené tout un secteur, une crise qui n'a pas empêché Airbus de devenir le leader mondial de l'aéronautique civile, alors qu'une autre tempête approche déjà à l'horizon, celle du défi climatique.
Ça n'a pas l'air brillant, hein ?
On a vu pire que ça. Mesdames et messieurs, ici le commandant Ortiz. Nous approchons d'une zone de turbulence. Alors, pour votre sécurité, je vous demande d'attacher vos ceintures et de ne pas quitter votre siège jusqu'à l'extinction de la
votre ceinture.
Je vous remercie.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
Les compagnies aériennes enregistrent une forte reprise de la demande des passagers et le secteur espère être à nouveau rentable en 2023. Après deux années de Covid, les pertes cumulées devraient passer de plus de 42 milliards de dollars en 2021 à moins de 10 milliards cette année.
Les compagnies aériennes se portent bien, reconstituent leurs revenus et maîtrisent leurs coûts. L'Association du transport aérien international, IATA, dressait le portrait ambitieux et rassurant d'une industrie clouée au sol dans les premiers instants du Covid. Les pertes se réduisent enfin. Une bonne nouvelle aussi pour les constructeurs d'avions et notamment pour Airbus. Bonjour Anne Bauer.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste de l'aéronautique et de la défense. Alors d'abord, comment se porte Airbus dans cette période post-Covid ?
Bah écoutez, ils se portent étonnamment bien, si on peut dire. Ils ont évidemment, le trafic aérien étant arrêté pendant deux ans, ils ont eu deux ans de perte en 2019 et 2020. Mais l'année 2021, qui est un peu celle de la reprise du trafic, pas encore au niveau normal, leur a permis de dégager des bénéfices records, c'est-à-dire les plus gros bénéfices de toute leur histoire, à 4,2 milliards d'euros. Par comparaison, Boeing a perdu 4,4 milliards la même année, je crois. Donc, vous voyez l'écart. Après, ils ont livré pas mal d'avions. Et pour cette année, a priori, tout se présente bien. Ils sont sur une tendance de hausse de livraison d'avions. Ils doivent en livrer à peu près 700 cette année. Leur carnet de commandes est plein. Il n'y a pas d'obstacle majeur. Ils prévoient pour cette année encore un bénéfice record, un bénéfice opérationnel, c'est-à-dire pas net, hein, mais de l'ordre de 5,5 milliards, ce qui est quand même un très gros chiffre. Ça veut dire que c'est quasiment une rentabilité brute de 10% pour un groupe qui fait 55 milliards d'euros. Alors, on peut se demander pourquoi ils vont bien après une telle crise, bien sûr, mais on peut dire qu'ils ont pas mal passé la crise, et en grande partie, il faut le dire, parce qu'ils ont bien géré, ils ont bien anticipé, fermé les usines au bon moment, les réouvrir au bon moment, etc. Mais aussi, il faut quand même le dire, parce que l'État les a quand même grandement aidés, et je pense que tout le secteur aérien a été très très aidé pendant cette période difficile. Airbus a su en profiter, le faire bien, c'est-à-dire que grâce au chômage partiel, aux prêts garantis de l'État, à toutes les mesures qui ont été prises, ils ont géré leur équipe au plus fin et au mieux. Et aujourd'hui, ils arrivent à produire leur Airbus malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, malgré l'énergie qui coûte cher, malgré la crise des composants, malgré tout ça. Enfin, il y a toute une... comme d'autres, hein. Ils ont une chaîne d'approvisionnement qui sort de la crise et qui a un peu de mal à se remettre en place et en route, mais ils arrivent à appuyer sur l'accélérateur et donc à livrer beaucoup et donc à dégager des profits.
Eh oui, 667 millions d'euros de bénéfices sur le seul troisième trimestre, une solide performance financière. C'est féliciter la direction du groupe qui est en passe de tourner la page du Covid. Airbus parle tout de même d'un environnement opérationnel complexe. Vous en parliez, Anne, avec ses difficultés d'approvisionnement et cette crise de l'énergie qui monte. Mais le groupe, qui produit surtout en euros et vend en dollars, bénéficie aussi de la forte hausse du billet vert, un avantage compétitif face à son concurrent Boeing. On peut dire aussi qu'Airbus profite des errances de l'américain.
Disons qu'en profiter, c'est pas les erreurs de Boeing qui ont fait le succès d'Airbus. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'en comparaison, Airbus a souffert de la crise du Covid qui a arrêté le transport aérien, mais au-delà, il n'y avait pas de problème majeur. Et Boeing, ils ont effectivement, en plus de la crise du Covid, accusé la crise du 737 MAX. Ils ont eu plus d'un an d'interruption sur leur Dreamliner, qui est leur avion plus long courrier. Enfin, Boeing, ils ont quand même accumulé une série d'erreurs ou de malchances, ou d'erreurs peut-être de stratégie, mais bon, voilà. Tout ce qui pouvait mal se passer est arrivé en même temps pour Boeing. Donc, par comparaison, les livraisons de Boeing ont complètement décalé. Elles sont, 30% inférieures. Le 737 MAX est autorisé à voler depuis pas très longtemps. Boeing a pris beaucoup de retard. Après, ils ont aussi un avantage, Airbus, effectivement, qui pour l'instant est bénéficiaire, c'est qu'ils étaient plutôt plus forts dans les moyens courriers et Boeing plus fort dans les longs courriers. Et en fait, ce qui redémarre le plus vite, c'est les vols domestiques et les vols régionaux ou continentaux, mais ce n'est pas les vols intercontinentaux parce que, comme vous le savez, l'Asie s'est ouverte que très progressivement. On ne peut toujours pas voyager en Chine. Enfin, il y a encore des obstacles.
Et ça a permis en tout cas à Airbus de devenir numéro un mondial de l'aéronautique civile. Alors qu'Airbus et Boeing étaient au coude à coude en termes de livraison en 2018, le groupe pan-européen avait livré à fin septembre une centaine d'avions de plus que l'américain. 437 appareils contre 328 pour Boeing, et l'écart est encore plus impressionnant en matière de carnet de commandes. Anne, Airbus, c'est aussi une activité dans la défense. Quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur les perspectives de cette activité?
Alors, Airbus a une activité de défense qui représente à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires sur 50 milliards de chiffre d'affaires, défense et espace. Ils ne vont pas bénéficier de la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine oblige tous les États européens à accélérer leurs dépenses, à augmenter leurs dépenses de défense. Dans le carnet d'activité d'Airbus, ça peut avoir des retombées. Normalement, ils ont des commandes qui étaient déjà en hausse de 15%, je crois, l'année dernière. Je pense qu'ils ont devant eux quelques années de prise de commandes assurées aussi dans la défense. Alors, ils sont pas dans les secteurs de la défense les plus malins, si je puis dire. Ils ont un peu raté le virage du drone. Ils ont un avion de transport aérien qui est tellement sophistiqué, tellement bien que personne ne l'achète parce qu'il est trop cher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'empêche pas qu'ils n'ont pas forcément les bons programmes. Par contre, dans le spatial, ils ont des belles perspectives. Il y a beaucoup de dépenses dans le spatial aujourd'hui. Beaucoup d'intérêt, un projet de nouvelle constellation européenne. Là-dessus, ils sont bien placés. Donc, l'un dans l'autre, c'est une activité qui est importante pour eux et qui devrait être plutôt en croissance dans les années qui viennent.
Airbus est sorti renforcé de cette crise, avec l'aide notamment de l'État. Mais comment le groupe européen s'apprête-t-il à affronter la suivante, dans un contexte de pression croissante du dérèglement climatique? Le groupe a nommé il y a 4 ans, en octobre 2018, un nouveau pilote aux commandes de ce mécano industriel complexe, Guillaume Faury, 54 ans, un président anti-bling-bling, c'est ce que m'a raconté Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos.
C'est un polytechnicien. Si son père dirigeait les ateliers, les chantiers du Havre, il vient d'une famille de militaires, puisque son grand-père est décédé au Vietnam, dans les prisons du Vietnam. Son arrière-grand-père était à l'origine de la création de l'armée polonaise. Il a fait Polytechnique et puis ensuite Supaéro. C'est quelqu'un qui fuit un peu les signes extérieurs de richesse. Il était connu pour sa quatrelle rouge à Polytechnique. Et quand il était à Supaéro, c'est aussi quelqu'un de très curieux qui n'hésite pas à sortir des cadres. À Supaéro, Il avait changé de binôme pour être aussi en binôme avec un super-héros et non pas avec la trentaine de polytechniciens qui étaient dans sa promotion. Donc quelqu'un d'assez ouvert, curieux intellectuellement, qui est devenu ensuite ingénieur d'essai en vol à la DGA, puis qui ensuite a rejoint Eurocopter pour faire carrière dans l'aéronautique. Et depuis 2019, c'est le président exécutif d'Airbus.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas favori pour succéder à Tom Enders, le patron emblématique d'Airbus.
C'est vrai, mais deux phénomènes ont joué en sa faveur. Il a en quelque sorte bénéficié d'un concours de circonstances pour prendre la tête d'Airbus. D'une part, il y a eu une guerre des chefs en 2017 entre le président Tom Enders et puis le patron de la branche avions commerciaux, Fabrice Végier. Et puis, il y a eu également l'impact des enquêtes pour corruption de deux organismes, le Serious Fraud Office britannique et le Parquet National Financier, qui, en grosso modo, ont fait le vide au sein d'un groupe qui a été traumatisé par l'enchaînement de ces enquêtes. Beaucoup de cadres sont partis. Et l'avantage de Guillaume Faury, c'est que durant la période qui était sous enquête par le SFO, il était chez PSA, c'est-à-dire entre 2009 et 2013. Il est parti chez PSA où il était directeur R&D. Donc, il n'était pas concerné par les enquêtes pour corruption.
Vous racontez d'ailleurs dans les Échos Week-end que lorsqu'il est revenu chez Airbus après son passage chez PSA, il garait sa 308 noire au milieu des nombreuses Mercedes des cadres. Chez Airbus, il prend aussi rarement les jets. Airbus est un géant de l'aéronautique, un groupe pan-européen. Il faut du temps pour en saisir tous les contours. Or, Guillaume Faury n'en a pas vraiment eu avec l'arrivée de la pandémie de Covid, peu de temps après sa nomination. Comment est-ce qu'il a tenu le manche durant cette crise dévastatrice pour le monde aérien ?
Durant cette crise, on peut dire que Guillaume Faury s'est révélé comme un excellent manager. L'une des obsessions du dirigeant, c'est la vitesse dans la prise de décision. Donc, il a fait trois choses très rapidement. D'une part, il est très vite allé chercher 15 milliards d'euros sur les marchés pour avoir, grosso modo, 30 milliards de trésorerie avec l'idée de pouvoir tenir 6 mois sans revenu. Ensuite, deuxième décision importante, il reprend le travail dans les usines au bout d'une semaine, 10 jours, à un moment où le gouvernement français était un peu entre deux eaux sur le fait de savoir si on pouvait de nouveau travailler en usine ou pas. Lui, il va assez vite, il prend une décision. Et puis, autre décision importante, il va réduire les cadences d'un tiers au mois d'avril et il va faire office de vigie pour toute la filière. Il va caler l'ensemble de la filière aéronautique sur ce rythme. C'était une décision qui n'était pas facile à prendre parce que, à l'époque, en 2020, on ne savait pas trop dans quelle mesure est-ce que les compagnies aériennes prendraient livraison des avions ou pas, dans quelle mesure il fallait faire travailler les usines, comment allait évoluer la demande. Ce n'était pas évident du tout. Donc, il prend cette décision assez vite. Et en juin, dernière décision importante, il va annoncer la suppression de 15 000 emplois dans le monde, environ 5 000 en France, sur les 130 000 salariés que comptait à l'époque le groupe, en martelant notamment que l'avionneur est en danger et qu'il faut vraiment réduire la voileur. Et ensuite, sur les 5 000 emplois qui étaient supprimés en France, ça va se faire sans licenciement contraint et ça va être revu à la baisse.
Après avoir prévu une baisse de sa production de 40% en 2021, Airbus annonce ce mardi qu'il va supprimer pas moins de 15 000 emplois, dont 5 000 en France. Un chiffre excessif, juge le ministère français des Finances ce mardi soir.
Il est revenu avec vous d'ailleurs sur cet épisode. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui sur ce plan de suppression d'emplois ?
Une des choses sur lesquelles il insiste beaucoup, c'est que très souvent dans les crises, l'une des erreurs qu'on commet, c'est de prendre une décision trop tardivement, de ne pas aller assez vite. Et ça, la vitesse, c'est un peu l'obsession de Guillaume Faury en la matière. Pour lui, il estime qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important. Une phrase qu'il aime bien également, c'est de dire que les lois de la physique ne répondent pas aux décisions des directeurs. Donc lui, son obsession, c'est de dire qu'il faut regarder les choses en face, telles qu'elles sont, et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Et qu'il faut agir en conséquence. Tout le temps.
Le risque dans les crises, c'est de ne pas vouloir voir que ça va aller très mal, dit-il. On ne pourra pas lui reprocher l'immobilisme, mais durant cette crise, il va aussi prendre une décision marquante dans ce monde de l'aéronautique où la bataille se mesure en prise de commande.
Il a pris une décision qui a beaucoup marqué les salariés concernant Qatar Airways. C'est une décision qui intervient en janvier 2022. À l'époque, Airbus va décider de résilier une commande de 50 monocouloirs A321neo de Qatar Airways. en riposte à un refus de livraison de 23 A350 par la compagnie qatari. C'est une décision incroyable. Ça ne s'était jamais fait auparavant. Alors pourquoi ? L'origine du conflit, c'est le fait que Qatar Airways a constaté sur certains A350 une dégradation accélérée de la peinture. Et donc la compagnie qatari a décidé de clouer au sol 21 d'entre eux fin 2021 et réclame des indemnités. Et ensuite, Qatar Airways va aller trop loin, c'est-à-dire qu'elle va invoquer des problèmes de sécurité et justifier le fait de ne pas prendre livraison des prochains. Et invoquer des problèmes de sécurité, c'est vraiment une ligne rouge pour Guillaume Faury, qui va dès lors décider d'engager un bras de fer avec son client. Alors pour certains, c'est une erreur, pour d'autres, c'est une épreuve de courage. En tout état de cause, c'est du jamais vu. Sachant que quelque part, Qatar Airways, c'est une compagnie dont les mille et une exigences sont légendaires dans le secteur. Vous avez des salariés qui vous expliquent que quand ils voient arriver un avion Qatar Airways sur la chaîne d'assemblage, bah quelque part, c'est un nid d'emmerde potentiel qui s'avance tellement le client est exigeant.
Je sais, je suis casse-pied.
Mais non.
Je ne peux pas m'en empêcher.
Cette crise dit beaucoup finalement de la personnalité de ce grand patron.
On peut considérer que la crise du Covid l'a révélé comme un excellent manager de crise. Pourquoi est-ce qu'il est très fort dans ce domaine ? Ça tient en grande partie à sa personnalité. Il y a plusieurs éléments qui jouent en sa faveur. D'une part, c'est quelqu'un qui a un contrôle de soi et de ses émotions qui est permanent. Il a la maîtrise de lui-même. Alors, ça fait parfois qu'il n'est pas très chaleureux ou expansif parce qu'il maîtrise ses émotions. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a que les faits. Et la deuxième caractéristique qu'il a, c'est qu'il a une relation ultra-cartésienne au monde. Du coup, dans les crises, il est parfait parce que quand tout le monde panique, il fait office de vigie. Et beaucoup de gens considéraient que les crises, quelque part, le galvanisent un peu parce que ça joue avec également une forme de ténacité très forte. C'est quelqu'un qui aime quand les situations sont compliquées, quelqu'un qui aime quand c'est dur. Et dans ces cas-là, il serre les dents et il s'accroche. Il faut savoir, par exemple, que c'est quelqu'un qui est capable de faire des triathlons sans être forcément entraîné dans les trois disciplines. Mais il serre les dents et il continue.
Le contrôle de soi, un homme qui ne perd jamais ses nerfs, prendre du recul, ne pas surréagir, même dans les situations les plus graves, comme ce sinistre 29 avril 2016.
L'hélicoptère, un super Puma, revenait d'une plateforme pétrolière en mer du Nord. Il s'est écrasé sur l'île de Touroy, près de Bergen, la deuxième ville du pays. Une partie de la carcasse a été retrouvée à une vingtaine de mètres des côtes. Des morceaux se trouvaient également sur la terre ferme, d'où s'échappait une épaisse fumée. Selon des témoignages, l'appareil est parti en vrille avant de s'écraser.
Mais le crash de cet hélicoptère super Puma fera 13 morts. C'est un épisode marquant, Emmanuel, de son histoire lorsqu'il était encore patron d'Eurocopter.
C'est un peu quand le pire du pire arrive pour une entreprise, à la fois parce que quand il apprend la nouvelle, il y a d'abord un choc émotionnel, il y a des questions qui se posent dans la tête de tout le monde sur l'origine de l'accident, et puis le fait que le Super Puma, qui est concerné par le crash, c'est un hélicoptère qui pèse très lourd dans les comptes d'Airbus Hélicoptères. Et ça intervient alors que l'entreprise affronte à la fois une chute des commandes du secteur pétrolier et puis une satisfaction client qui est en berne. Donc au moment où l'ensemble des cadres essayent de travailler pour redresser l'entreprise, etc., c'est un peu comme si le pire du pire arrive et le ciel vous tombe sur la tête. Et quand il apprend cette nouvelle, il est dans une réunion, il pousse le téléphone mobile à la personne qui est à côté de lui pour lui donner l'info et ensuite... Eh ben, il continue la réunion. Il va maîtriser son émotion tout au long de la réunion. Il demande au directeur technique de sortir pour aller s'occuper de l'événement immédiatement. Mais c'est là où il va beaucoup marquer les gens autour de lui, de par le self-control qu'il va garder, le fait de ne pas paniquer, le fait de rester une vigie pour les équipes et de continuer à indiquer la direction à suivre, les actions à prendre et à rester méthodique et à ne pas céder à la panique et à ne pas perdre ses nerfs, quelque part.
Oui, réagir à chaud, hein, ce qui peut amener à la prise de mauvaises décisions ou en tout cas de décisions inappropriées en temps de crise. En pleine crise du Covid, justement, il va prendre une autre décision importante pour aborder, peut-être, la prochaine crise climatique, cette fois pour l'aéronautique, accusée de participer au réchauffement de la planète.
En septembre 2020, il va prendre une décision clé. Il va annoncer l'avènement d'un avion à hydrogène pour 2035. Alors, c'est une décision qui paraît assez hallucinante à l'ensemble de la filière à l'époque, parce que ça suppose un lancement de programme en 2027 ou 2028, alors que les défis technologiques sont absolument colossaux. Beaucoup de gens, notamment à l'époque, vont juger que ce calendrier est tactique, parce qu'en juin, l'État a débloqué une aide de 1,5 milliard d'euros dédiée à l'avion vert. Donc, avec cet objectif, beaucoup perçoivent cette annonce comme une sorte d'alignement d'Airbus sur les annonces gouvernementales. Mais n'empêche, avec cette annonce, Airbus se distingue de Boeing et prend un lead sur le thème de l'aviation décarbonée et puis répond dans le même temps aux questions de flight shaming qui montent en Europe.
Le flight shaming qui nous vient notamment des pays scandinaves et qui est la honte de prendre l'avion, en fait. Et ça, c'est une problématique importante aussi, notamment pour convaincre finalement les jeunes de s'intéresser à ce monde de l'aviation.
Cette décision, ça permet de répondre au flight shaming à deux niveaux. D'une part, montrer que la filière a décidé d'agir pour réduire très concrètement ses émissions de carbone en n'ayant pas peur de décisions radicales. Et puis, c'est aussi une façon de changer l'image d'Airbus et de faire en sorte que Airbus puisse continuer à recruter de jeunes ingénieurs, à séduire parmi les jeunes générations pour proposer des projets qui soient enthousiasmants et pour les jeunes qui sont en quête de sens. Donc, c'est une décision absolument clé pour le futur, les perspectives d'Airbus et le recrutement.
On verra en 2035, dans 13 ans, si les avions à hydrogène Airbus volent ou en tout cas commencent à sortir des usines. En attendant, il faut continuer à vendre des avions qui fonctionnent au kérosène. Quels sont justement les autres défis qui attendent Guillaume Faury ?
Il y a plusieurs grands défis pour Guillaume Faury. Il y a des défis tout d'abord industriels. Le premier, je dirais que c'est d'abord de réussir à produire 75 appareils de la famille A320 par mois en 2025, remonter le rythme des cadences. Et ça, c'est absolument clé pour le cours boursier d'Airbus, pour les investisseurs, parce que c'est ce qui est directement lié à la capacité d'Airbus à dégager des profits. Et ensuite, le fait de convaincre la filière qui est assez sceptique vis-à-vis de l'avion à hydrogène, de l'entraîner, de montrer que c'est possible d'aller dans cette direction. Il faudra aussi gérer une activité défense et espace qui est en panne de croissance et qui est perçue comme à la fois opaque et un peu fourre-tout par les analystes. Ensuite, à moyen terme, il y a aussi la question du partage de la valeur ajoutée dans un monde inflationniste et moins globalisé qu'auparavant. Comment répartir cette valeur ajoutée avec l'ensemble de la chaîne de valeur et les fournisseurs ? Il y a des questions culturelles aussi qui se posent, notamment la capacité d'Airbus à conserver des managers allemands d'excellence, malgré un prestige de la société qui est quand même nettement moindre outre-Rhin, où c'est plutôt le secteur de l'automobile, le secteur le plus prestigieux. Et puis, il y a également des défis peut-être plus personnels qui sont à la fois ne pas céder à l'hubris en tant qu'entreprise et aussi ne pas s'isoler en tant que manager, alors que Guillaume Faury a parfois du mal à faire confiance. Il aime comprendre par lui-même, vraiment descendre dans les détails, aller sur le terrain au niveau des problèmes. Donc, il faudra avoir la capacité de déléguer, d'entraîner les équipes et d'éviter de s'isoler, alors que jusqu'à présent, tout lui a réussi.
Merci Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos. Vous pouvez retrouver son portrait de Guillaume Faury dans les Échos Week-end. Merci à Anne Bauer, journaliste au service entreprise. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.